Chapitre 17. John Stuart Mill. Heureux qui a beaucoup à désirer. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Utilitariste est un mot que l'on peut lire régulièrement sous la plume de gens qui n'en comprennent pas le sens. Un éditorialiste, par exemple, le glissera avec satisfaction dans son commentaire d'une décision politique, non pour féliciter l'auteur de contribuer à augmenter le bonheur général, mais pour lui reprocher un vulgaire souci d'efficacité, de rendement, une visée purement utilitaire. C'est en fait pour servir de synonyme à cette expression que le mot utilitariste, plus chic, semble être souvent utilisé. Par utilitaire, on entend ce qui sert seulement à des buts prosaïques, matériels, étroits, le plus méprisable de tous étant de gagner de l'argent ou d'éviter d'en dépenser. Par exemple, l'affreux bas de jogging que je porte en ce moment est bien purement utilitaire. Il ne prétend fournir qu'un maximum de confort et un minimum de décence, sans la moindre prétention à l'élégance. Tout ce qui servirait d'abord à l'élégance, en revanche, ne serait pas décrié comme utilitaire. Qu'en est-il du bonheur de tous? Est-ce un objectif si bassement terre-à-terre que l'on puisse reprocher à celui qui veut y contribuer d'être animé d'un souci purement utilitaire? Mon propre bonheur, par exemple, requiert bien davantage qu'un bas de jogging. J'aspire à un épanouissement plus complet, notamment intellectuel, que le parfait confort de mes membres inférieurs ne saurait suffire à réaliser, quoiqu'il puisse y concourir. Considérer que travailler à mon bonheur est un objectif purement utilitaire, c'est se faire une bien médiocre et bien fausse idée de la nature de mes aspirations. Il en ira de même, à plus forte raison, pour le bonheur de tous. Peut-on en fait concevoir un objectif plus élevé et ambitieux? Et puisque l'utilitarisme est la philosophie morale qui le vise précisément, ou qui vise en tout cas à maximiser la réalisation d'un tel objectif, nous pouvons dire assurément que rien n'est moins utilitaire que l'utilitarisme. L'utilitarisme est un conséquentialisme, c'est-à-dire une philosophie morale selon laquelle la valeur d'une action dépend seulement de certains aspects de ses conséquences. L'idée fondamentale derrière toute approche conséquentialiste est assez simple. Il y a des situations du monde meilleures ou pires que d'autres. Pourvu que ce point soit admis, quelle que soit l'interprétation que vous donniez de cette idée de meilleur ou de pire, il suivra logiquement qu'une action A sera considérée comme meilleure qu'une action B dans la mesure où la conséquence de A est une situation meilleure ou moins pire que la situation qui résulterait de B. Au détour du chapitre sur Kant, j'ai déjà mentionné la grande variété d'interprétations qu'autorise cette idée très générale, en particulier en ce qui concerne les différentes façons d'appréhender les conséquences. Faut-il tenir compte des conséquences réelles de l'action ou seulement des probabilités attendues? Et dans ce dernier cas, de quelle façon évalue-t-on ces probabilités? Jusqu'où dans le temps faut-il envisager les conséquences? Notez aussi que l'on peut envisager un conséquentialisme de la règle qui consiste à considérer non pas qu'il faut en toutes circonstances calculer et faire l'action entraînant les meilleures conséquences, mais qu'il faut plutôt déterminer des règles dont l'application aura les meilleures conséquences possibles, puis agir en suivant ces règles. Le conséquentialisme de la règle peut ressembler sous certains aspects, mais n'est pas équivalent au déontologisme kantien, comme je l'expliquais dans le chapitre qui lui est consacré. C'est en cela que le conséquentialisme est bien plus un type très large de philosophie morale qu'une théorie particulière. L'utilitarisme, de même, ne désigne pas une théorie précise, mais plutôt une famille de théories conséquentialistes dont il existe d'innombrables variantes. Ce qui va caractériser l'approche utilitariste concerne le critère par lequel une situation est évaluée meilleure qu'une autre. Pour un utilitariste, cela aura à voir avec le bonheur de tous ou bonheur général, compris comme la somme des bonheurs particuliers de chaque individu. Il faut pour cela admettre un moyen de quantifier le bonheur, nous y reviendrons. Qu'une situation soit préférable du point de vue moral si les gens y sont plus heureux, toutes choses égales par ailleurs, ou pour le dire plus simplement, que le bonheur soit moralement positif et le malheur moralement négatif, voilà l'axiome indémontrable mais intuitif sur lequel repose la pensée utilitariste en général, et elle ne retient simplement aucun autre critère que celui-ci. Une situation sera donc évaluée comme meilleure qu'une autre si et seulement si on y est globalement plus heureux ou moins malheureux. Et la meilleure action possible est donc celle qui maximise le bonheur général. Telle est l'idée centrale de l'utilitarisme. Le point important n'est pas seulement la référence au bonheur, mais aussi au fait que l'on se soucie de tous, c'est-à-dire de tous les êtres susceptibles d'être heureux ou malheureux. Cela rend cette approche très inclusive et égalitariste, à capacité de souffrir égale, l'importance d'une souffrance étant la même. Cela a conduit une large part des utilitaristes, à commencer par son fondateur Jeremy Bentham, à inclure au moins certains animaux dans le cercle de la morale, comme je l'indiquais dans le chapitre sur Kant. Parmi un ensemble d'actions possibles, déterminer quelle est la meilleure action du point de vue moral requiert donc de déterminer les conséquences de chacune, ou les probabilités de ces différentes conséquences, puis de calculer le bonheur général résultant pour chacun des cas. La meilleure action sera celle qui maximise cette valeur. Notez bien que je ne parle pas d'une action absolument bonne, elle n'est que meilleure relativement à toutes les autres options envisagées. Illustrons par un exemple classique. Imaginez qu'un train sans conducteur soit lancé à pleine vitesse sur une voie ferrée où 5 ouvriers travaillent et ne pourront éviter d'être percutés et de mourir. À cet instant, vous ne pouvez faire qu'une chose pour éviter la catastrophe, tirer sur un levier d'aiguillage qui dévira le train vers une autre voie où un seul ouvrier travaille. En l'absence d'informations supplémentaires, un utilitariste considérera les deux conséquences possibles. 5 morts si on ne fait rien, 1 seul mort si on tire le levier. Pour autant que vous sachiez à cet instant, et c'est à cet instant que vous devez prendre une décision, la meilleure des deux situations est la seconde. Vous devez donc tirer le levier. Ce n'est pas seulement permis, c'est moralement obligatoire. Certes, tirer le levier revient à causer la mort d'une personne, et il est difficile de regarder cela comme bon en soi, et peut-être certains déontologistes pour cette raison refuseraient de le faire. Mais c'est la meilleure ou la moins mauvaise des deux actions. Cet exemple provient d'un article de Philippa Foot et est connu comme le dilemme du tramway ou trolley problème. En fait, très rares sont ceux qui refusent de tirer le levier. Le dilemme naît plutôt des diverses variantes où ce sacrifice d'un seul pour en sauver 5 nous semble beaucoup plus difficile à justifier. Par exemple, dans la variante du gros homme, il s'agit de pousser quelqu'un sur la voie pour arrêter le train. On doit cette variante ainsi qu'une analyse très poussée de ces dilemmes à l'excellente philosophe Judith Jarvis Thompson. L'étude de ce genre de cas a donné naissance à une littérature foisonnante où les trains, les serial killers et les chirurgiens utilitaristes rivalisent d'inventivité pour nous proposer des dilemmes de plus en plus tordus. Le calcul utilitariste des conséquences requiert de comparer des quantités de bonheur ou de malheur dans différentes situations. L'exemple du train est utile pour sa simplicité. Nul besoin de préciser en quoi consiste exactement le bonheur, il suffit de supposer que, en l'absence d'autres informations, une mort a plutôt un impact négatif sur le bonheur général. Dans la mesure où la seule chose que vous savez des conséquences de l'une ou l'autre action est un certain nombre de morts, la quantification du bonheur pour ces deux situations se résume à cette inégalité, 5 est plus grand que 1. C'est propre et net. Mais il y aura bien des situations où le calcul sera plus difficile et subtil et demandera de déterminer plus finement en quoi consiste exactement ce bonheur que l'on cherche à maximiser. L'une des raisons pour lesquelles il existe diverses formes d'utilitarisme tient à cela. Il y a autant de philosophes que de façons de comprendre cette notion centrale de bonheur. Sur cette question, les utilitaristes contemporains se divisent en nombreux groupes et sous-groupes qu'il serait fastidieux d'énumérer. Je vais me concentrer ici sur les premiers utilitaristes, les utilitaristes classiques, Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Ils ont en commun d'avoir défendu une conception hédoniste du bonheur, c'est-à-dire liée au plaisir et à la peine, comprise en un sens large qui recouvre aussi bien l'idée de douleur physique que de souffrance psychologique. Pour eux, un plaisir est une quantité positive de bonheur, une peine est une quantité négative. L'avantage de cette approche est que plaisir et peine semblent bien intuitivement quantifiables. Il y a un sens à parler de plaisir plus ou moins grand, de peine plus ou moins intense. De là, comparer et faire des calculs sur ces grandeurs devient tout au moins envisageable. Dans le chapitre sur Hobbes, j'opposais deux conceptions du bonheur. Une conception statique d'une part, où les désirs, source de troubles et de manques, sont perçus comme ce qui nous éloigne d'un bonheur qui résiderait dans le repos, dans un état stable de satisfaction absolue, et une conception dynamique d'autre part, où c'est la course de désir en désir qui nous rend heureux. Il semble que l'hédonisme des utilitaristes penche plutôt du côté de cette conception dynamique. chaque désir satisfait apportant une quantité positive de plaisir, et plus nous en satisfaisons, plus cette quantité augmente. Même s'il était possible d'atteindre ces idéaux antiques de maîtrise et limitation de nos désirs, ce ne serait pas perçu comme optimal. Mieux vaut pour chacun satisfaire autant de désirs que possible pour en tirer un maximum de plaisir. Les utilitaristes ne tombent pas pour autant dans l'éloge d'une course au plaisir qui se ferait aux dépens des autres, voir le chapitre sur Hobbes, car ils restent soucieux du bonheur général. Ce qu'il faut maximiser, ce n'est pas le plaisir individuel d'un seul, mais le plaisir agrégé de tous à la fois. L'idéal de ces utilitaristes hédonistes résiderait donc plutôt dans la satisfaction maximale de désirs pour chaque individu, compatible avec la satisfaction maximale des désirs des autres. On suppose ici que les capacités à éprouver du plaisir des uns et des autres sont comparables. Mais que se passerait-il si un être humain parmi nous était un monstre d'utilité, dont la capacité à éprouver du plaisir serait incommensurablement plus grande que les capacités de tous les autres êtres humains réunis? En toute rigueur, du point de vue utilitariste, il serait alors légitime que ce monstre d'utilité asservisse le reste du genre humain pour l'aider à satisfaire autant que possible tous ses désirs. En dépit du malheur de tous sauf lui, son seul bonheur suffirait à maximiser la quantité totale de bonheur. Cette objection amusante a été formulée par Robert Nozick en 1974 dans « Anarchie, État et Utopie ». Mais passons là-dessus et admettons qu'un tel monstre d'utilité n'existe pas. Voyons maintenant ce qui distingue les utilitarismes de Bentham et Mill, car ces deux grandes figures sont en fait largement en désaccord, en particulier sur leur interprétation de l'hédonisme et de la notion de plaisir. Jeremy Bentham, né en 1748 et mort en 1832, est le fondateur de l'utilitarisme. Il y a des esquisses de cette pensée chez bien d'autres auteurs avant lui, mais il est le premier à avoir clairement posé les bases théoriques d'une philosophie morale conséquentialiste visant à maximiser le bonheur général. John Stuart Mill, né en 1806 et mort en 1876, est son cadet de plus d'un demi-siècle, mais son œuvre a eu une influence considérable sur le développement de ce mouvement. L'utilitarisme ne lui est pas tombé dessus par hasard. Son père, James Mill, l'a pour ainsi dire éduqué dans l'utilitarisme, voulant explicitement faire de son fils le parfait disciple de Bentham, dont il était un grand admirateur. Vers l'âge de 20 ans, étouffé par cette tutelle intellectuelle, John Stuart Mill traversa une profonde crise morale qui l'éloigna de la rigidité des idées de son père et de Bentham. Il rencontrera, quelques années plus tard, Harriet Taylor, qui eut une influence très importante sur ses idées, sur le développement de sa sensibilité esthétique, ainsi que sur son engagement féministe, qui s'exprimera notamment dans son essai « De l'assujettissement des femmes », où il promeut l'égalité sociale et politique pour les femmes. Tout en se réclamant de l'utilitarisme, les griefs que Mill retient contre Bentham sont nombreux et profonds, au point qu'il avouera ne pas se reconnaître dans ce que la plupart de ses contemporains appellent « utilitarisme ». Mill écrivait dans une lettre à Carlyle en 1834 « Je suis encore et je resterai probablement utilitariste, mais sans faire partie de ces gens qu'on appelle utilitaristes. Vous jugerez plus tard du nombre et de la diversité considérable des éclaircissements que requiert mon utilitarisme, et vous verrez que ces éclaircissements affectent son essence et pas seulement ses aspects accidentels. » Beaucoup des reproches de Mill sont liés, me semble-t-il, à ce qu'il perçoit comme une indécrottable vulgarité intellectuelle chez Bentham, son incompréhension face aux aspirations les plus élevées, et un regrettable manque de sensibilité, notamment esthétique. Ce reproche sur le caractère même de Bentham est par exemple perceptible dans ce passage d'une étude de Mill publiée en 1838. Socrate et Platon sont traités par Bentham dans des termes qui sont affligeants pour ses plus grands admirateurs. Et l'incapacité d'apprécier de tels hommes est un fait qui s'accorde parfaitement avec les habitudes d'esprit générales de Bentham. Plus loin dans le même texte, Mill parle de l'incomplétude de son propre esprit comme représentatif de la nature humaine. Pour beaucoup des sentiments les plus naturels et les plus forts de la nature humaine, Bentham n'avait aucune sympathie. De beaucoup des expériences les plus profondes, il était complètement détaché. Et la faculté par laquelle un esprit comprend un autre esprit et se projette dans les sentiments de cet autre esprit lui était complètement refusée par les déficiences de son imagination. En se basant sur divers témoignages allant dans ce sens, deux psychologues ont publié un article défendant un diagnostic de syndrome d'Asperger pour Bentham. Ce reproche de Mill quant au manque de sensibilité esthétique chez Bentham pourrait sembler anecdotique et ne pas toucher au contenu de sa théorie. On peut après tout avoir le goût grossier, mais le raisonnement fin, Mais ce tour de l'esprit de Bentham semble bien lié à la façon dont sa théorie utilitariste considère l'évaluation des plaisirs. Pour lui, toute quantité de plaisir en vaut une autre, quelle que soit la nature de ce plaisir. Celui de manger du chocolat ou de se masturber doit pouvoir être comparé au plaisir de lire Shakespeare ou d'aider son prochain. Chacun en est le seul juge. Le plaisir de celui qui met la masturbation au-dessus de Shakespeare aura le même poids, la même valeur dans le calcul utilitariste que le plaisir de celui qui porte un jugement contraire. Voilà peut-être ce qui choquait fondamentalement l'esprit plus raffiné de John Stuart Mill dans la doctrine de Bentham. Elle ne permet pas de considérer qu'un plaisir intellectuel a en lui-même plus de valeur qu'un plaisir purement animal. Après tout, quand bien même mon corps est ainsi fait que mon plaisir de me masturber sera toujours plus intense que mon plaisir de lire Shakespeare, il me semble en toute honnêteté que c'est le cas et ça n'a rien de surprenant d'un point de vue évolutif, je peux néanmoins considérer le plaisir que je tire de ma lecture comme plus important, comme ayant plus de valeur que le plaisir que je tire de mes parties inférieures. Autrement dit, il faudrait distinguer non seulement des quantités de plaisir, mais aussi diverses qualités de plaisir et certaines supérieures à d'autres. Telle est la plus importante innovation théorique de l'utilitarisme de Mill par rapport à celui de son prédécesseur. Mill écrit ainsi : On peut, sans s'écarter le moins du monde du principe de l'utilité, reconnaître le fait que certaines espèces de plaisirs sont plus désirables et plus précieuses que d'autres. Alors que dans l'estimation de toutes les choses, on tient compte de la qualité aussi bien que de la quantité, il serait absurde d'admettre que dans l'estimation des plaisirs, on ne doit tenir compte que de la quantité. On pourrait me demander « Qu'entendez-vous par une différence de qualité entre les plaisirs ? Qu'est-ce qui peut rendre un plaisir plus précieux qu'un autre en tant que plaisir pur et simple, si ce n'est qu'il est plus grand quantitativement ?» Il n'y a qu'une réponse possible. De deux plaisirs, s'il en est un auquel tous ceux ou presque tous ceux qui ont l'expérience de l'un et de l'autre accordent une préférence bien arrêtée, sans y être poussés par un sentiment d'obligation morale, c'est ce plaisir-là qui est le plus désirable. Si ceux qui sont en état de juger avec compétence de ces deux plaisirs placent l'un d'eux tellement au-dessus de l'autre qu'ils le préfèrent tout en le sachant accompagné d'une plus grande somme d'insatisfaction, s'ils sont décidés à n'y pas renoncer en échange d'une quantité de l'autre plaisir telle qu'ils ne puissent pas, pour eux, y en avoir de plus grande, nous sommes fondés à accorder à la jouissance ainsi préférée une supériorité qualitative qui l'emporte tellement sur la quantité que celle-ci, en comparaison, compte peu. Or, c'est un fait indiscutable que ceux qui ont une égale connaissance de deux genres de vie, qui sont également capables de les apprécier et d'en jouir, donnent résolument une préférence très marquée à celui qui met en œuvre leurs facultés supérieures. Peu de créatures humaines accepteraient d'être changées en animaux inférieurs sur la promesse de la plus large ration de plaisir de bête. Aucun être humain intelligent ne consentirait à être un imbécile, aucun homme instruit à être un ignorant, aucun homme ayant du cœur et une conscience à être égoïste et vil, même s'ils avaient la conviction que l'imbécile, l'ignorant ou le gredin sont, avec leurs lots respectifs, plus complètement satisfaits qu'eux-mêmes avec le leur. Ils ne voudraient pas échanger ce qu'ils possèdent de plus qu'eux contre la satisfaction la plus complète de tous les désirs qui leur sont communs. John Stuart Mill, L'utilitarisme. Ce qui signale que la qualité d'une espèce de plaisir A est supérieure à la qualité d'une espèce de plaisir B, ce serait donc le fait que ceux qui connaissent à la fois A et B préfèrent une satisfaction même incomplète des plaisirs de type A à la satisfaction même complète des plaisirs de type B. Cette préférence pour ce qui semble être une quantité moindre de plaisir s'expliquerait par le fait qu'elle viserait des plaisirs de qualité supérieure. John Stuart Mill ne donne nulle part une règle précise quant à savoir comment, dans le calcul utilitariste, pondérer diverses quantités de plaisir en fonction de ces diverses qualités. L'idée générale sera de donner un poids nettement plus fort aux quantités de plaisir de qualité supérieure, mais il ne semble pas que l'on puisse non plus se passer totalement de plaisir de qualité inférieure. Le calcul utilitariste, auquel on pouvait déjà objecter beaucoup de difficultés dans sa version de Bentham, se complexifie et s'obscurcit ainsi davantage avec cette innovation de John Stuart Mill qui, notamment pour cette raison, sera beaucoup critiquée. Essayons pourtant de lui donner sa chance car il me semble qu'il y a quelque chose de juste dans l'idée de cette distinction de qualité. Prenons un exemple pour l'illustrer. En fin de chaque chapitre, je vous suggère des lectures supplémentaires susceptibles de vous intéresser. Et j'espère bien que quelques-uns de ces titres se sont ajoutés à la longue liste de livres, articles, BD, films, séries, vidéos, podcasts, etc. à lire, regarder ou écouter, que vous n'avez pas encore eu le temps de lire, regarder ou écouter. Cette liste n'existe peut-être que dans votre tête, mais je ne doute pas qu'elle existe. Pourvu que vous ayez le plus petit degré de curiosité intellectuelle, l'offre de contenu susceptible de vous intéresser continue de s'élargir de jour en jour, tandis que le temps que vous pouvez y consacrer reste le même, de sorte que cette liste de désirs ne pourra jamais que s'allonger indéfiniment. Ne pouvant en satisfaire qu'une bien maigre portion, notre curiosité semble nous condamner à demeurer profondément insatisfaits, scrollant éternellement sur Netflix sans savoir quelle série choisir. Imaginez maintenant que vous puissiez vous débarrasser de cette curiosité intellectuelle qui vous apporte tant d'insatisfaction. Vous pourriez, en claquant des doigts, ne plus rien désirer que voir et revoir encore les mêmes 10 saisons de Friends disponibles sur votre service de streaming préféré. Ainsi, aucune insatisfaction, seulement un plaisir simple, toujours disponible, toujours renouvelé. Le feriez-vous ? Pour ma part, non, et je gage que l'immense majorité d'entre vous refuserait de même. Le désir et le plaisir de revoir de vieux épisodes de Friends ne m'est pas inconnu, et une part de moi est bien frustrée de ne pas avoir le temps de regarder une fois de plus les 10 saisons de cette série qui a bercé mon enfance, mais je ne voudrais pas renoncer à ma curiosité intellectuelle contre la satisfaction la plus complète de ce seul désir simple. J'attribue une valeur supérieure au plaisir que je tire de ma curiosité intellectuelle, même si celle-ci, en créant bien plus de désirs que je ne pourrais jamais en satisfaire, me frustre aussi profondément. Lorsque John Stuart Mill parle de facultés supérieures dans le passage cité plus haut, c'est à ces vertus de l'esprit comme la curiosité intellectuelle qu'il peut notamment penser, me semble-t-il. Je trouve intéressant qu'il prenne ensuite un exemple de vertu morale. Aucun homme ayant du cœur et une conscience ne consentirait à être égoïste et vil, écrit-il. Une telle vertu, elle aussi, a de quoi nous laisser profondément insatisfaits. Si vous avez des exigences morales, quelles qu'elles soient, vous désirez les voir respectées et vous serez certainement très insatisfait de constater que, bien souvent, ce n'est pas le cas. Mais si vous pouviez, en claquant des doigts, faire disparaître de votre esprit cette exigence morale et, avec elle, l'insatisfaction qu'elle fait naître, le feriez-vous ? Plutôt qu'être indigné de l'inconduite des autres ou honteux de votre propre inconduite et frustré de voir le monde tourner autrement que vous ne le voudriez, si vous pouviez être dans une disposition d'esprit qui accepte tout, même les pires atrocités, sans aucun désir que les choses arrivent autrement, le feriez-vous ? Là encore, je ne pense pas. Comme pour la curiosité intellectuelle, nous ne voulons pas renoncer à notre propre exigence morale, même si nous savons qu'elle nous condamne à beaucoup de souffrances et d'insatisfactions. Est-ce se condamner du même coup au malheur ? Selon la conception statique du bonheur, oui. Chaque désir insatisfait nous éloigne un peu plus du bonheur. Et cela rejoindrait un thème assez classique en philosophie, sacrifier le bonheur à l'exigence de vérité et de moralité. Mais pour John Stuart Mill, cette préférence pour un état où nous sommes très insatisfaits n'est pas un sacrifice de notre bonheur. Il écrit ainsi : croire qu'en manifestant une telle préférence, on sacrifie quelque chose de son bonheur, croire que l'être supérieur, dans des circonstances qui seraient équivalentes à tous égards pour l'un et pour l'autre, n'est pas plus heureux que l'être inférieur, c'est confondre les deux idées très différentes de bonheur, happiness, et de satisfaction, content. Incontestablement, l'être dont les facultés de jouissance sont d'ordre inférieur a les plus grandes chances de les voir pleinement satisfaites, tandis qu'un être d'aspiration élevée sentira toujours que le bonheur qu'il peut viser, quel qu'il soit, le monde étant fait comme il est un bonheur imparfait. Mais il peut apprendre à supporter ce qu'il y a d'imperfection dans ce bonheur pour peu que celle-ci soit supportable. Et elles ne le rendront pas jaloux d'un être qui, à la vérité, ignore ses imperfections, mais ne les ignore que parce qu'il ne soupçonne aucunement le bien auquel ses imperfections sont attachées. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Et si l'imbécile ou le porc sont d'un avis différent, c'est qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question, le leur. L'autre partie, pour faire la comparaison, connaît les deux côtés. John Stuart Mill, L'utilitarisme. Plutôt Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait, voilà une sacrée punchline. Le mot satisfait traduit ici l'anglais content, et il pourrait être pertinent de parler en français de contentement. Ce mot renvoie bien à l'idée d'un remplissage, d'une plénitude, rappelant les tonneaux bien remplis dont Socrate faisait l'image de la vie heureuse contre Calliclès aux tonneaux percés, comme un pluvier qui mange et fiente en même temps. En somme, on serait plus ou moins content selon la plus ou moins grande proportion de désirs satisfaits par rapport au nombre total de désirs. Arrivé à 100%, le contentement est maximal, il ne nous manque rien. Un chat qui ne désirerait que manger et dormir, et qui mangerait et dormirait autant qu'il le désire, serait bien content et ne pourrait pas l'être davantage. Et pour se rapprocher de cet état de contentement, le plus efficace reste de limiter ou supprimer nos désirs autant que possible. La proportion de désirs satisfaits en sera réduite d'autant. Si John Stuart Mill poussait son propos un peu plus loin, peut-être finirait-il par dire que l'ataraxie des anciens n'est rien de plus que cela, être content. Ce n'est pas être heureux, car le bonheur, pour John Stuart Mill, n'est pas lié à la proportion de désirs réalisés, mais à la quantité et à la qualité des plaisirs que produit la satisfaction de nos désirs. Plus on a de plaisirs, en quantité et en qualité, plus on est heureux. Ainsi, développer ce qu'il appelle des facultés supérieures, comme la curiosité intellectuelle, faculté dont nous pouvons tirer du plaisir, et des plaisirs d'une qualité supérieure, cela revient bien, en fin de compte, à accroître son bonheur, même si c'est au prix d'une insatisfaction plus grande, la proportion de désirs non réalisés augmentant à mesure que nos facultés s'élargissent. Si ne plus désirer lire aucun livre ne me tente pas, c'est parce que le plaisir que je tire de la poignée de livres auxquels je peux consacrer du temps m'est particulièrement précieux et contrebalance de loin l'insatisfaction de ne pas pouvoir lire tous ceux que je voudrais. Je ne sacrifie donc aucunement mon bonheur, seulement ma satisfaction. Je suis moins content, peut-être, mais plus heureux. Et c'est en ce sens aussi qu'il faut comprendre la formule selon laquelle il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Ce n'est pas une affaire de dignité morale, Socrate est tout simplement plus heureux que l'imbécile. L'imbécile pourrait nier ce point, se considérant tout à fait heureux comme il est et ne voyant pas en quoi cet insatisfait de Socrate l'est davantage. Mais, selon John Stuart Mill, une telle opinion n'a pas la même légitimité à statuer sur la différence de qualité de plaisir, car les imbéciles ne connaissent qu'un côté de la question, le leur. Il faut avoir fait soi-même l'expérience des deux espèces de plaisir pour pouvoir juger de la qualité de l'un par rapport à l'autre. Celui qui ne fut jamais capable d'en apprécier qu'un seul n'a tout simplement pas son mot à dire. Celui qui ne sait rien des plaisirs de l'intelligence, autant que l'animal qui ne sait rien des plaisirs humains, n'est pas en position de juger de la valeur de ses propres plaisirs par rapport à ceux-là. L'argument est séduisant, mais il ne faut pas en abuser. Supposons qu'un utilitariste rigoureusement benthamien se déclare contre cette théorie des qualités de plaisir. Le défenseur de John Stuart Mill pourrait être tenté de balayer la critique d'un revers de la main en usant de ce même stratagème. Vous refusez de reconnaître cette différence de qualité dans les plaisirs ? C'est le signe que vous n'avez pas l'esprit ou le goût assez développé pour apprécier ces différences, et votre opinion sur ce point n'a pas de valeur. Imbécile satisfait que vous êtes, vous ne comprenez qu'un seul côté de la question. Les discussions esthétiques prennent souvent un tour similaire. Considérez par exemple un fan de Stanley Kubrick à qui vous suggérez que 2001 Odyssée de l'espace est somme toute assez ennuyeux et prétentieux. Il vous répondra, avec mansuétude, que vous n'avez pas vraiment compris le film, sans quoi vous ne diriez pas cela, et qu'à ce titre, votre avis ne vaut rien. Mais le seul moyen de convaincre ce cinéphile averti que vous avez vraiment compris ce film qu'il tient pour un chef-d'œuvre, c'est de le porter au nu aussi bien que lui. Émettre un avis négatif disqualifie votre capacité à émettre un avis. Vous n'êtes plus à ses yeux qu'un imbécile satisfait dans l'ignorance. De façon similaire, l'argumentation que déploie John Stuart Mill en faveur de sa distinction entre qualité de plaisir pourrait pousser à une forme d'élitisme intellectuel en invalidant par avance toute critique de la part de ceux qui ne partagent pas ses valeurs. Quelques livres pour aller plus loin. John Stuart Mill, L'utilitarisme, Flammarion, 1988. Un livre clair et bref, une petite centaine de pages, qui expose les bases de la pensée utilitariste de John Stuart Mill. Le dernier chapitre, qui discute du lien entre la notion de justice et celle d'utilité, est particulièrement intéressant. Quelle est la façon juste de punir, de récompenser le travail, de répartir l'impôt ? Sur toutes ces questions, les critères de justice sont divers et il semble impossible de les satisfaire tous en même temps. Par exemple, la juste rémunération d'un travailleur produisant peu avec beaucoup d'efforts doit-elle être supérieure ou inférieure à celle d'un travailleur plus doué produisant davantage mais en faisant moins d'efforts ? L'une ou l'autre réponse peut être défendue comme juste, fera remarquer John Stuart Mill. Il écrit « Ce qui préoccupe l'un, c'est de déterminer en toute justice ce que l'individu doit recevoir. Ce qui préoccupe l'autre, c'est de déterminer en toute justice ce que la société doit donner. » Chacun des deux, du point de vue où il s'est placé, est irréfutable, et le choix entre ces points de vue pour des raisons relevant de la justice ne peut qu'être absolument arbitraire. C'est l'utilité sociale seule qui permet de décider entre l'un et l'autre. John Stuart Mill, l'utilitarisme. Autrement dit, aucun accord n'est possible si l'on ne cherche qu'à argumenter quant à ce qui est juste, il faut se demander plutôt, en utilitariste, quel mode de rémunération contribue le plus au bonheur général. John Stuart Mill, De la liberté, Gallimard, collection Folio, 1990. Si John Stuart Mill est avant tout un grand utilitariste, c'est aussi un grand libéral. Le libéralisme, il faut le rappeler car ce mot finit aujourd'hui par ne plus évoquer qu'une vague idéologie repoussoire, est d'abord un mouvement de philosophie morale et politique qui accorde une place centrale au respect des libertés individuelles. Qu'un utilitariste soit libéral n'a rien d'automatique, au contraire. En effet, l'utilitarisme semble permettre de justifier de piétiner les libertés individuelles, même les plus fondamentales. Si sacrifier les droits d'un individu est un moyen d'augmenter le bonheur général, alors il serait non seulement moralement permis, mais même obligatoire de le faire. Les purs libéraux, par exemple Robert Nozick, sont plutôt des déontologues posant certains principes, comme la propriété de soi, qui ne peuvent être enfreints même au nom d'un plus grand bien. Et ce sont par là des adversaires déclarés des utilitaristes. John Stuart Mill, étant utilitariste avant d'être libéral, son libéralisme n'a en fait qu'une valeur instrumentale. À ses yeux, respecter autant que possible les libertés individuelles est bien un moyen de maximiser le bonheur général, et c'est pour cette raison seulement qu'il défend des positions libérales. Son magnifique essai « De la liberté », qui présente ses vues sur le sujet, est son œuvre la plus lue et sûrement la plus utile à lire encore aujourd'hui. Le deuxième chapitre, en particulier, est une des plus vibrantes défenses de la liberté d'expression jamais écrite. Dans le premier chapitre, il expose et justifie le principe fondamental de son libéralisme, le principe de nuisance, d'après lequel la seule raison légitime de limiter la liberté d'un individu, que ce soit par l'action de l'État ou par le contrôle social, est pour l'empêcher de nuire à autrui. Ce principe s'oppose ainsi à toute forme de paternalisme. Il ne faut pas prendre de décision pour le bien d'autrui, pourvu qu'autrui soit majeur et correctement informé. Mais John Stuart Mill reste utilitariste et s'il refuse le paternalisme, c'est avant tout parce qu'il le juge globalement inefficace. Chacun reste, en général, le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour lui. Laisser un maximum de liberté à des individus capables d'agir en vue de l'idée particulière qu'ils se font de leur bonheur serait un moyen de maximiser le bonheur général. Voilà comment l'utilitarisme de John Stuart Mill accouche d'une pensée libérale. Peter Singer, L'altruisme efficace, Les arènes, 2018. L'altruisme efficace, c'est le conséquentialisme en ordre de bataille. Il s'agit d'un mouvement philosophique et social visant à promouvoir un maximum d'efforts pour améliorer l'état du monde et surtout à cibler ces efforts par une démarche scientifique et rationnelle. Ce livre de Peter Singer est une présentation inspirante de ce mouvement et de ses acteurs, insistant notamment, à travers les nombreux portraits d'altruistes efficaces, sur le bonheur que la pratique de cet altruisme apporte aux altruistes eux-mêmes. Singer est lui-même un des initiateurs de l'altruisme efficace, et c'est un des philosophes actuels les plus importants, grand théoricien et défenseur de l'utilitarisme, connu notamment pour avoir porté la cause animale dans son livre « La libération animale ». Avec l'altruisme efficace, vous apprendrez qu'il ne suffit pas de donner la moitié de votre manteau ou de vos revenus pour bien faire. Il faut encore maximiser l'effet de ces dons en visant les organismes les plus efficaces, c'est-à-dire ceux qui produisent le plus grand bien pour chaque centime dépensé. Les organismes caritatifs ne sont pas au-dessus d'une analyse coût-bénéfice. Ce travail d'évaluation est assuré par des méta-charities comme GiveWell ou The Life You Can Save qui étudient l'efficacité de centaines de programmes. Si vous voulez agir en bon conséquentialiste, je vous suggère de commencer par voler ce livre et donner l'équivalent de son prix aux associations recommandées. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement « The Life You Can Save » de Peter Singer sur le site de l'organisme du même nom, un des livres fondateurs de l'altruisme efficace.